Bonjour, et nous voilà à nouveau sur les ondes de Radio Galère, en compagnie encore de Yamine, qui est toujours là dans la cabine technique, que je remercie pour son intervention efficace, et puis de mes complices habituels, Roselyne, bonjour.
Bonjour.
Habib, bonjour.
Bonjour, Yamine.
Voilà, alors je vais commencer par vous parler de quelque chose qui fâche, c'est le Covid. Alors, bon, j'en parle parce que vous n'en entendez plus parler, parce que vous avez tous deviné que jusqu'au premier tour de la présidentielle, il n'y a plus de pandémie. C'est fini. Hein, on enlève les masques, c'est la fête, etc. Enfin, c'est pas la fête pour tout le monde, mais en même temps, on distribue de l'argent, il y a eu la prime inflation, maintenant il y a la baisse sur le carburant, on va gâter Pierre, Paul et Jacques et tout. Donc, qui oserait parler d'épidémie en ces moments bénis qui vont amener la réélection d'Emmanuel Macron? Personne, évidemment. Hein, ce serait des mauvais coucheurs, on dirait des pisse vinaigre. Bon, voilà. Et pourtant, l'épidémie est toujours là. L'épidémie est toujours là, puisque Omicron a fabriqué un nouveau variant qui s'appelle AB1. Et AB1 s'est mis à sévir. Alors, ça a commencé en Asie, ça vient en Afrique, puis ça va arriver chez nous sans tarder. Alors, il y a déjà des pics assez importants. Le point le plus chaud qui a été le signal du démarrage, parce qu'on ne sait jamais tout à fait à quel endroit ça démarre, ça a été Hong Kong, où là, ils ont atteint des chiffres d'hospitalisés, de malades qu'ils n'avaient jamais atteints dans les vagues précédentes. Et puis ça s'est répandu un peu en Corée, etc. Ça est arrivé en Chine la semaine dernière, au point que, écoutez bien, mais ça, on ne vous l'a pas dit, parce que ça fait peur et ça fait froid dans le dos, j'imagine. Le gouvernement chinois a décidé de confiner Shanghai et Pékin, c'est-à-dire 25 millions d'habitants d'un côté, 10, 15 de l'autre. Bon, avec les méthodes qu'ils ont, on ferme tout, on arrête et tout, même si c'est que 8 jours, parce qu'on ne veut pas que ça se développe. Le résultat de cette politique-là, qui paraît brutale, c'est qu'il y a aujourd'hui, les statistiques sont officielles, elles sont contestées par personne, il n'y a eu que 5000 morts du Covid en Chine populaire, 1,4 milliard d'habitants. Bon, ils disent, c'est ça le prix, c'est bref, mais c'est brutal. Mais alors en plus, tous les équipements sont là, le matériel pour les services de secours, les masques, en fait, tout est là, les services de livraison de nourriture dans les familles qui restent à la maison, etc. Tout ça est super organisé, il y a même un certain rodage à force. Bon. C'est quand même 40 millions de personnes qui ont été confinées en une journée. Bon, voilà. Prenez conscience de l'ampleur et puis de la maîtrise de la situation. Bon. Tout ça n'est pas pour vous rendre triste, mais vous avez pu avoir l'impression que, comme on n'en parlait plus, c'était fini. Ben non, c'est pas vrai.
On a pensé que c'était Poutine qui avait...
Oui, alors on l'a pas mis au milieu. C'est vrai, curieusement, de ça, il n'est pas responsable, apparemment, jusqu'à preuve du contraire. Bon, voilà, pour le Covid, donc, je veux pas faire les alarmistes. Apparemment, c'est un petit dérivé du variant Omicron, donc très contagieux, pas très fatigant, pas létal, etc. Mais en fait, il est là, et puis il y a une épidémie qui se poursuit, et ça conforte toutes les positions de l'OMS qui ont dit, de toute façon, c'est pas dans les pays où les vaccinés sont une grosse majorité de la population qu'il faut juger, c'est sur l'ensemble de l'espèce humaine, puisque l'épidémie se promène partout, d'où son nom de pandémie. Et dans la mesure où il y a des endroits où on ne soigne pas, ou avec des moyens du bord, il n'y a pas tout à fait les moyens, effectivement, les possibilités de redémarrage, de propagation demeurent. C'est tout à fait simple. Bon, je ne veux pas en dire plus pour pas mal commencer la séance, mais je dis, ce qu'on constate, et vous l'avez tous constaté, c'est que pour les médias francophones, ce que vous écoutez, ce que vous voyez tous les jours, c'est quasiment terminé. On a enlevé ci, on a enlevé ça, tout va bien, c'est la fête, on va tous s'embrasser sur la bouche, surtout le soir du premier tour, parce qu'on sera content que Macron soit le premier.
À la russe, on va s'embrasser à la russe.
À la russe, on sera content que Macron soit le premier, sauf s'il n'est pas le premier. On verra bien, il peut toujours y avoir des événements extraordinaires. Bon, ça c'était pour le variant. Un mot tout de suite pour parler d'un ami qui nous est cher, qui s'appelle Manlio Dinucci. Vous savez, c'est ce chroniqueur italien qui faisait des chroniques très régulières. Je crois que ça faisait une vingtaine d'années qu'il les faisait dans un quotidien italien qui s'appelle Il Manifesto. Alors, pour ceux qui ne lisent pas l'italien, je précise que sous le titre Il Manifesto, ce qui veut dire le manifeste, qui est un clin d'œil au manifeste communiste de Marx et Engels, il y avait marqué Quotidiano Comunista. Bon, donc c'était très clair, son positionnement politique ne faisait pas l'ombre d'un doute. Et ce qui s'est passé, donc ça s'est passé exactement la semaine dernière au moment où on était à l'antenne, enfin juste avant, le dernier billet, il avait donc un billet qui faisait gratuitement, il n'était pas journaliste, hein, il avait une page tous les lundis dans ce quotidien depuis une vingtaine d'années. Il faut dire qu'il avait, d'abord il a une formation de géographe, il a une forte expérience politique, donc il avait toujours quelque chose à dire et il était parfaitement au courant, en particulier de tous les aspects militaires de l'économie contemporaine, ce qui était extrêmement précieux. Il avait été formé à ça quand il était plus jeune, donc il, en très peu de mots, hein, sur une page d'un quotidien, il disait beaucoup, beaucoup de choses très à jour. Bon. Et donc il publie, c'était donc lundi dernier, un papier disant « La RAND Corporation avait tout prévu ». Alors la RAND Corporation, je le rappelle à nouveau, c'est donc un espèce de tank de la pensée états-unien qui travaille beaucoup, enfin qui a des contrats et qui vit pratiquement des contrats avec le Pentagone, qui fait de la prospective, qui réfléchit sur l'avenir, qui donne des idées, qui enquête et tout, qui a des agences dans un grand nombre de pays du monde, donc un organisme sérieux qui ne dit pas n'importe quoi, n'importe quoi. Et effectivement, la RAND Corporation avait annoncé ce qui allait se passer en Ukraine. Alors ça, il l'écrit, preuve à l'appui, j'allais dire. Hein. Et dans le matin même, donc dans le jour même où le texte avait été mis sur la version donc, Internet du quotidien, la direction du journal décide de la supprimer. Et elle le supprime dans le même mouvement dans l'édition papier, puisqu'il y avait, vous pouviez trouver dans les kiosques à journaux en Italie, une édition papier de Il Manifesto. Donc c'était un cas évident de censure, à la suite de quoi Manlio Dinucci a dit ben, « je ne collaborerai plus jamais avec ce journal, point, n'en parlons plus ». Et il a dit, à juste titre, « je suis suffisamment connu dans le monde parce que ces articles sont traduits en français, en anglais, en russe, etc. Enfin, il est lu partout dans le monde, je me passerai du manifesto, mais je continuerai à faire mon travail ». Voilà, je voulais lui tirer un coup de chapeau et dire que voilà, la censure, c'est quelque chose qui risque de faire beaucoup de dégâts. Alors là, c'est en Italie. Ça va être la même chose en France. On en reparlera un peu plus tard. On est assez proche d'une espèce de maccartisme à la française. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit sur la situation concrète sans qu'on vous dise tu es pour ceci ou pour cela, etc. Bon. Donc ça... cette espèce de négation de l'esprit d'analyse, de la volonté de compréhension, de l'accumulation de faits, fait partie du sport quotidien auquel nous sommes soumis, de l'activité quotidienne du monde. Mais il se passe quand même beaucoup de choses dans le monde. Alors je vais commencer par aller faire un petit tour en Amérique latine, puisqu'on a oublié d'en parler, enfin on a omis d'en parler ces derniers temps, où il s'est quand même passé des choses assez intéressantes. La première chose, qui est un événement mais, enfin, dont on verra les suites, c'est la prise de fonction du nouveau président chilien, Gabriel Boric. Bon. Alors, il a fait un discours qui est assez sympathique dans la mesure où il dit « Si je suis là, c'est grâce à vous » et il s'adresse à tout le mouvement populaire qui, vous le savez, à la fin de 2019, au début de 2020, a mis en question le système politique chilien, avec des manifestations de rue massives et tout, a obtenu finalement la création, elle a été élue, d'une assemblée en train de rédiger une nouvelle constitution. Donc il y a eu un vrai choc politique pour le Chili. Et donc, dans son discours, il rend hommage à ce mouvement populaire qui l'a porté au pouvoir, sans quoi il serait pas là. Hein. Et il dit « j'aurai toujours besoin de vous ». Sous-entendu, si vous poussez, vous continuez pas à m'aider, j'arriverai pas au bout de mes projets, parce qu'il sait qu'il y a une opposition qui n'est pas simplement une opposition au Chili, mais une opposition générale qui vient d'un tout petit peu plus au nord. Vous imaginez ce que je veux dire. Bon. Le risque, enfin, dans ce papier, donc, on ne pouvait pas attendre autre chose. Il n'allait pas dire vous m'avez porté au pouvoir, vous m'avez aidé à arriver au pouvoir, maintenant je ne vous connais plus. C'était difficile à dire, je pense qu'il ne le pense pas. Mais il a quand même montré un certain nombre de faiblesses dans la mesure où il a pris position sur la question ukrainienne, d'une façon qui ne peut pas déplaire à Washington. Donc il a un peu ménagé ses arrières, donc il est entre deux eaux. Et ce que je peux dire, c'est pas méchant, c'est jusqu'à quand son soutien populaire va continuer à le soutenir. Alors ça va dépendre des mesures concrètes qu'il prend, avec, je le rappelle, un Parlement qui n'est pas à ses ordres et donc qui va lui mener peut-être la vie un petit peu dure. Voilà. Donc, affaire à suivre. Donc, rappelons, ce mouvement populaire provoque des changements. Il y aura à la fin de l'année donc, la mise en œuvre, enfin la possibilité de mettre en œuvre la nouvelle constitution, ce qui pourrait être une étape à franchir et qui lui donnerait peut-être les coudées plus franches. Ça reste à voir. Mais il est là, c'est lui qui est à la tête du pays. Ça, c'était pour le Chili, et puis on suivra ça, parce qu'il n'y a pas plus de conclusions à tirer aujourd'hui de cette affaire. Il s'est passé d'autres événements en Colombie. En Colombie, alors, il s'agit d'événements de type électoral, mais là aussi, faisant suite donc, à des manifestations monstres qui ont eu lieu, de critiques populaires du gouvernement actuel, manifestations qui ont été réprimées très violemment, puisqu'il y a eu plusieurs dizaines de morts, c'est-à-dire la police a tiré sur les manifestants. On est dans l'ordre de grandeur d'une centaine de morts tués par la police en manifestation. C'est pas simplement une bavure, une erreur. Mais ça, c'est à l'image du gouvernement et de l'équipe dirigeante colombienne. Et puis, donc, à la suite de ça, il y a eu des élections qui n'ont pas été provoquées par le mouvement et qui ont donc eu lieu ces dernières semaines en Colombie. Alors, il y a eu deux élections, des élections législatives d'une part et une présélection pour les présidentielles, parce qu'en fait, là-bas, les primaires sont institutionnalisées. C'est-à-dire que les candidats qui vont arriver, nous, c'est les 500 signatures, bon, ben là-bas, c'est autre chose, il y a des primaires dans chaque camp politique, et puis après, c'est ceux qui sont issus victorieux des primaires qui vont se présenter au suffrage, c'est prévu pour le mois de mai. Le résultat des législatives est, à l'image de ce qu'on peut attendre en Colombie, c'est-à-dire que un courant, disons, d'une gauche progressiste, appelons-le comme ça, qui est mené par celui qui va être la tête de liste de gauche aux élections présidentielles et qui s'appelle Gustavo Petro, qui est un ancien maire de Bogota, qui avait déjà concouru pour les élections présidentielles précédentes, est très mal représenté et au Parlement, à la Chambre des députés et au Sénat. C'est-à-dire qu'il a une quinzaine de députés, une quinzaine de sénateurs sur des centaines de sièges de tous les autres. Et tous les autres, c'est du centre, de la droite, de l'extrême droite, toutes variétés confondues. Donc la situation parlementaire ne lui est pas du tout favorable et va le rester. Cependant, donc il porte quelques espoirs, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter, il porte quelques espoirs puisqu'il sera donc le candidat sorti des primaires pour la gauche et qu'il aura normalement en face de lui, en plus de petits candidats, disons, mais deux gros candidats, un candidat du centre et un candidat de la droite classique au pouvoir en Colombie depuis longtemps. Au vu des résultats des primaires de gauche, il a beaucoup de voix. Et paradoxalement, il a eu beaucoup plus de voix aux primaires de la gauche que ses candidats en ont obtenu pour les élections législatives. Mais pas beaucoup plus. Il a eu 5,5 millions de voix aux primaires présidentielles et ses candidats députés et sénateurs n'ont eu en tout que 2,5 millions. Donc ça s'est évaporé quelque part en route. Et donc ça veut dire que son appui parlementaire, il est quand même instable. Alors il a, disons, un succès d'estime, c'est celui qui ose se présenter contre le régime, hein, disons ça simplement. Quels moyens a-t-il de changer les choses ? Fort peu, c'est tout à fait clair. Bon. Et quant aux autres, alors il y en a un qui est un candidat du centre, et le troisième qui est le candidat de la droite donc du régime des narcotrafiquants et du régime des paramilitaires, est un monsieur qui, paradoxalement, se présente comme indépendant et qui ne l'est pas du tout, hein, puisqu'il est très très lié par toute une série de liens sur lesquels je ne m'attarde pas, avec le régime donc de Uribe, de Santos, enfin, toute cette équipe qui gouverne la Colombie de la façon que l'on sait. Donc là aussi, on a une espèce de lueur d'espoir, mais avec, je dis, des conditions concrètes d'exercice du pouvoir, si Petro est élu, ce qui n'est pas impossible sur le papier, mais de toute façon, il sera ligoté par un Parlement qui ne lui obéira en aucune façon. Si jamais il arrive au bout, parce qu'on peut prendre les paris que le candidat du centre va plutôt porter ses voix sur le candidat de la droite que sur lui. Et donc, on verra bien. Alors là aussi, une petite lueur d'espoir, mais beaucoup de conditions concrètes qui ne sont pas favorables. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je fais un pas au Venezuela maintenant. Au Venezuela, là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Et je vais résumer. Monsieur Guaido n'existe plus. Bon, je résume, c'est caricatural, mais enfin, Monsieur Guaido n'existe plus. Celui dont on a prétendu qu'il était président, mal reçu par l'élite politique. En fait, il n'existe plus à telle enseigne que le président Biden et l'administration des États-Unis a envoyé une délégation au Venezuela pour rencontrer le président et son équipe, et en disant très clairement, c'était un communiqué de la Maison Blanche, le président envoie une délégation rencontrer le président Maduro. Donc, effectivement, ça y est, hein, du jour au lendemain, miracle, miracle, M. Maduro est à nouveau président de la République, ce qu'il a toujours été, mais ce qu'on n'avait pas vu à Washington, parce qu'on n'avait peut-être pas mis les bonnes lunettes. Voilà. Et donc, Guaido, c'est terminé. Hein. D'ailleurs, là, apparemment, même la presse n'a plus parlé de Guaido, puisqu'ils ont vu, ah ben, puisque Washington a dit que c'était Maduro le vrai, maintenant, l'autre, on ne le connaît plus.
Ils bon. Ont besoin du pétrole.
Voilà. Alors, après, ce qui s'est passé, c'est que l'objectif de la visite, c'était de dire, écoutez, on sait que vous avez des difficultés à vendre votre pétrole. Oui, on sait, puisque c'est eux qui ont organisé l'embargo sur les pièces détachées, enfin, surtout qui ont compliqué la vie de l'économie pétrolière vénézuélienne, qui a un fort potentiel pétrolier, on le sait. Et ils venaient dire, bon, si vous voulez, on peut vous en acheter. Hein. Alors, hein, et le Venezuela a dit pour l'instant, on n'a pas besoin de vous, on a nos clients. Hein. Alors, la manœuvre était grossière, mais ça voulait dire, enfin, l'intérêt, c'était que dire ben, l'épisode Guaido, ben, ça n'a pas marché, on n'en parle plus. Maintenant, on revient à des situations plus normales, on reconnaît là, l'équipe au gouvernement comme étant au gouvernement, on n'en parle plus. Mais ils n'ont pas marché, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit, ah, on va vous vendre notre pétrole parce que vous en avez besoin. Nous, on a déjà nos clients, ils ont dit, si on produit plus, on verra bien, hein, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Bon. Et ce qui s'est passé, alors on s'était dit, ça y est, on a dit, le gouvernement Maduro tombe dans les bras de Biden. Pas du tout. 48 heures après, le ministre des Affaires étrangères russe a rencontré très officiellement la vice-présidente du Venezuela et il a été conclu que, bien entendu, ils allaient poursuivre leur coopération, que le Venezuela n'allait pas, maintenant que les États-Unis avaient adouci leur position, oublier ceux qui les avaient aidés dans les moments difficiles. Donc là, l'affaire est tout à fait claire, mais c'est assez étonnant de voir ces mouvements de changement à 180 degrés de l'opinion sur un pays, sur un gouvernement, en fonction des nécessités de l'heure. Alors acheter du pétrole, on peut en discuter d'ailleurs, parce que c'était plus, enfin ça paraissait une opération de pure communication, puisque c'est pas le fait pour les États-Unis de ne plus acheter de pétrole en Russie, ce qu'ils ont décidé de faire, soit de diminuer leurs importations de 3% du volume, qui va les empêcher d'arriver à remplir leurs raffineries et les réservoirs de leurs voitures et de leurs tanks. Ils ont d'autres fournisseurs possibles, ils ont du pétrole sur leur territoire, ils ont la main sur le pétrole canadien très largement, ils ont la main très largement sur le pétrole mexicain. Donc en fait, c'était un geste beaucoup plus politique qu'économique. Il s'agissait de dire, bon, on s'est arrangé avec le Venezuela, on aimerait surtout que le Venezuela se fâche avec la Russie. Bon, c'était ça le but de la main.
Là, ce matin...
Oui, alors dis-nous.
Oui, sur l'Amérique, elle a dit pas de problème, on reprend toujours le pétrole russe.
On reprend. Ah, ça y est, ben,
ça
voilà.
Y est, oui,
voilà. Donc, donc la manœuvre ayant échoué, bon, finalement, on va racheter du pétrole russe. Bon, voilà. Bon. Donc, mais je dis, c'est peu de besoin, c'est 3% des importations des États-Unis, et les États-Unis ont une capacité quand même si c'est pour l'essentiel maintenant du pétrole de schiste, mais en utilisant le pétrole canadien qui est abondant et le pétrole mexicain qui est abondant aussi, ils ont beaucoup de possibilités sur place, et puis ils ont accès au pétrole du Nigeria, ils ont accès au pétrole saoudien, etc. Bon, et pétrole angolais, enfin, ils ont le marché mondial est ouvert, et il est d'autant plus ouvert qu'en ce moment, comme ça se vend très cher, tout le monde se précipite pour en vendre, vous l'imaginez volontiers. Un mot sur le Mexique en passant. Le Mexique, qui a été marié quasiment de force avec les États-Unis dans la zone de libre-échange en 1994, s'est trouvé en fait un petit peu dépossédé de ses ressources pétrolières. Non pas, alors il n'a pas volé les puits, bien entendu, mais en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, le raffinage du pétrole mexicain se fait sur le territoire des États-Unis. Et donc, pour faire le plein au Mexique, il faut enrichir une raffinerie qui est sur le sol des États-Unis. Mais ça devrait changer, puisque le président mexicain, López Obrador, a annoncé que la construction est en cours, que le Mexique allait achever sur son sol la construction d'une raffinerie qui va raffiner le pétrole mexicain.
Oui.
Ça, ça paraît aller de soi. Mais ça, c'est très, très significatif parce que le traité de libre-échange, vu les rapports de force de l'époque, donc Clinton en 94, etc., était un traité, en fait, engendrant une espèce de néocolonialisme des États-Unis sur le Mexique. Le Mexique était réduit à une colonie africaine à la française. Vous fournissez les matières premières et les produits finis, c'est nous. Et donc la marge bénéficiaire, c'est pour nous. Et en plus, on impose le prix qu'on achète votre matière brute. C'était exactement ça. Bon. López Obrador est en train d'en sortir et il a la capacité politique de le faire parce qu'il est très soutenu dans la population pour ses politiques donc de reprise en main de l'économie nationale, à telle enseigne qui vient du fait, bénéficiant de cette popularité, de décider de nationaliser le lithium mexicain. Alors ça, c'est très intéressant, c'est que le lithium... C'est donc la base de tous les téléphones portables, ordinateurs, etc., etc. Et donc, il y a des gisements de lithium sur le territoire du Mexique. Et donc, le gouvernement mexicain a décidé de les nationaliser. Donc, là aussi, maîtrise de la ressource nationale dans un marché mondial dont on sait qu'il est très porteur et qu'il a beaucoup d'avenir. Voilà, ça c'était un petit tour dans l'Amérique latine où il se passe quand même des choses alors avec difficulté, des mouvements vers la gauche et puis ceux qui sont solides, donc on le sait, Nicaragua, Cuba qui continue à tenir le coup, ça tout va bien, et le Venezuela qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui continue son processus donc de socialisation à la bolivarienne, donc avec implication, il y a le Parti Socialiste Unifié du Venezuela, donc qui est au pouvoir, le parti de Maduro, a tenu un congrès pour fixer les objectifs de la période qui vient, auxquels ont participé 2200 délégués, 1100 femmes, 1100 hommes, représentant les comités de quartier, les comités d'usine, etc. Il y a un véritable travail de masse qui est fait pour que la population participe au processus politique. Donc voilà, ça, ça continue. Et dans la mesure où le pouvoir politique maintenant est moins menacé par les États-Unis et qu'il a l'appui des États, de la Russie et de la Chine, il peut poursuivre sa marche en avant. Ce qu'on lui souhaite, bien entendu. Voilà, pour l'Amérique latine, donc avec du rose, de la demi-rose, des choses intéressantes, mais ça bouge. Il faut toujours le souligner. Et puis, on va parler... de ce qui se passe pour l'Iran. L'Iran, voilà, c'est très intéressant parce que vous savez qu'il y a donc des négociations pour remettre en vigueur l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, donc qui avait été dénoncé par Donald Trump, mais pas par les autres signataires, au nombre desquels la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Russie. Donc il n'y avait que les États-Unis qui en étaient sortis. Et l'Iran avait toujours dit, au moment où Trump avait dénoncé, « Moi, je dénonce rien, je suis prêt à m'en tenir à cet accord. » Simplement, il y en a un qui est sorti. Et il disait aux autres, « Pourquoi vous ne continuez pas ?» Alors les autres, bien entendu, la Russie disait « C'est dommage qu'on ne continue pas. » Les autres, dans la mesure où l'ordre, la position venait de Washington, ils mettaient leur mouchoir par-dessus, comme on dit, et ils laissaient faire. On est sorti de ça puisque c'est l'administration Biden qui a décidé de réouvrir les négociations sur ce protocole. Alors au début, elle est arrivée avec ses gros sabots en disant « Oui, je veux bien discuter, mais il faut qu'on revoie l'accord ». Et les Iraniens et les autres, finalement, ont dit « Non, il y a un accord, vous l'aviez signé, on s'y tient, point à la ligne.
Oui. » Excuse-moi, parce que c'est l'accord de non-prolifération.
Oui, ah, d'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui, j'appelle ça l'accord sur le nucléaire. Oui,
ouais, c'est ça.
Voilà. Et donc, on en était là jusqu'au moment où il y a un des signataires qui s'appelle la Russie, a dit, écoutez, il y a un certain nombre de précisions qu'il faut qu'ils soient mises dans le nouvel accord, vu les nouvelles circonstances politico-économiques, c'est que la centrale économique, la seule centrale nucléaire, pardon, qui existe sur le sol iranien, qui est la centrale de Bouchir. Bouchir, c'est un port sur le golfe arabo-persique. Bon, cette centrale a été construite donc, par l'entreprise atomique russe qui s'appelle Rosatom. Et dans le contrat, il est très très clair, et ça convient parfaitement aux objectifs contre l'arme atomique, que c'est la Russie qui fournit le combustible, c'est la Russie qui vient chercher le combustible une fois irradié, c'est la Russie qui le nettoie, de son plutonium en particulier, qui permet de faire des bombes atomiques, et c'est la Russie qui fournit du nouveau combustible à la place de celui qu'elle a enlevé. On ne peut pas être plus clair. C'est suivi de très très près par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, il est clair que la centrale nucléaire de Bouchir n'est pas partie d'un programme éventuel militaire iranien. Bon, C'est, bon, là. Alors, ça a été réacté, puisqu'il y a eu une rencontre là-dessus, où le ministre des Affaires étrangères russe s'est exprimé, a dit, voilà, on a fait réacter ça, mais il fallait l'ajouter pour que les choses soient bien claires. Et donc, normalement, les conditions sont remplies pour que cet accord revienne en vigueur.
Ce matin, voilà. Ils ont fait une déclaration comme quoi l'accord est complètement...
Ficelé. Voilà, c'est ça. Donc on est prêt. C'était le dernier passage. Dernier passage parce que la Russie disant, confirmant, moi je prends les combustibles irradiés, j'enlève le plutonium, la partie militaire, et je refournis à l'Iran du combustible normal pour une centrale nucléaire comme il en existe beaucoup dans le monde.
Justement, c'est pour cette raison que les Américains, ils ont reculé et ils ont dit on prend l'essence des... le pétrole de la Russie.
De la Russie, voilà, c'est ça. Voilà, ça fait partie un peu de l'arrangement. Donc, vous voyez que c'est intéressant parce que ça évite de sortir de cette espèce d'ombre noire qu'on fait régner sur nos têtes, sur nos écrans, sur nos micros, etc., en disant tout va mal. Non, tout va pas mal. Les rapports de force changent, mais il est clair. Alors, je tire une conclusion un peu plus générale que Biden est entouré d'un certain nombre de fous furieux. Mais que lui, je pense qu'il s'appuie sur les militaires, ne l'est pas tant que ça, parce qu'il se rend bien compte qu'aller trop loin, c'est prendre des risques incalculés, et donc il n'a pas trop envie que ça aille dans ce sens, même si, par ailleurs, il sait très bien ce que son pays a fait de l'Ukraine, il sait très bien ce que son fils faisait en Ukraine, il sait très bien ce que Mme Nuland, la numéro 2 du département d'État, faisait en Ukraine, mais il sait très bien qu'il y a une limite, c'est-à-dire que l'Ukraine, ce n'est pas l'OTAN, et on va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Voilà, ça c'était un point important. Et puis il y a un autre pays qui fait partie un peu du mouvement des frontières géopolitiques.
Excusez-moi, je voudrais...
Vas-y, Gabi, vas-y.
Ouais, je voudrais dire que actuellement, il y a eu donc un règlement en Erbil. Je ne sais pas si vous voulez en parler.
Vas-y, dis-le.
Dis-le. Erbil.
Erbil, donc...
Allez-y.
Donc au nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. Voilà.
Exactement. Il y a eu donc un bombardement. Les Iraniens ont bombardé un site, l'installation du Mossad à Erbil.
Mm-hmm.
Voilà. Donc et là, ils ont aussi en même temps perturbé le cyber. Cyberattaque. En Israël.
En Israël.
Voilà. Et donc, il y a eu 4 généraux, je pense, israéliens qui sont morts dans cette attaque et plusieurs blessés. Voilà.
Voilà. C'est ça que je voulais dire. Tout ça pour confirmer effectivement la présence permanente des services secrets des militaires israéliens sur le sol syrien, dans les zones qui, pour l'instant, ne sont pas encore contrôlées par le gouvernement de Damas. Hein, pour bien... Donc, c'est des zones qui sont assez floues, parce qu'on a de la peine. À une période, c'était très simple. On disait, c'est les Syriens libres qui sont là, mais c'est mélangé. Le Syrien soi-disant libre de Kurdes, de soldats américains, de soldats israéliens. Enfin, tout ça est très, très compliqué. C'est une zone où on y voit assez peu clair.
Les rebelles modérés,
puis toutes sortes de services secrets, services spéciaux et tout. Donc là, le fait, c'est tout à fait important que ça soit ciblé et que ça marche. C'est-à-dire que les contre-mesures israéliennes n'ont pas marché, donc la cible a été visée, et donc pour Israël, c'est un très mauvais coup. Mais j'allais dire, c'est quand même dommage qu'il ait fallu attendre si longtemps pour qu'Israël arrête de s'impliquer dans la guerre de Syrie et arrête de bombarder, ce qui faisait quasiment toutes les semaines, des cibles sur la Syrie. Et ce n'était pas que des cibles militaires, c'était des cibles civiles. Il s'agissait de créer le désordre dans la Syrie.
Le Kurdistan irakien, la ville Erbil, donc, se trouve au nord, à la frontière iranienne. Mm-hmm. Et à ce qui paraît, les Iraniens ont dénombré 20 sites de Mossad.
Voilà.
Alors, ils ont attaqué le centre, si vous voulez, le cœur.
Et puis, il y a tout ce qui est autour.
Tout ce qui est autour, voilà, exactement.
Voilà. Il faut savoir que l'investissement israélien dans le Kurdistan irakien est une vieille opération qui remonte à l'époque de la première guerre du Golfe. Vous savez qu'après la première guerre du Golfe, en gros, le régime de Bagdad, donc de Saddam Hussein, arrivait à gouverner sur le centre du pays. Le nord lui échappait puisqu'il était entre les mains des Kurdes irakiens, soutenus par Israël. Et le sud lui échappait aussi parce qu'il était entre les mains d'opposants politiques. Et donc, en fait, Bagdad et donc Saddam Hussein gouvernaient sur un tiers du pays. Et curieusement, comme les choses sont bien faites, il n'avait pétrole ni du sud ni du nord. Et donc, l'enrichissement pouvait se faire et lui ne voyait rien. Ce qui explique qu'après, il n'ait pas pu beaucoup résister à la deuxième guerre du Golfe en 2003.
Et que Barzani...
Et là, donc, la famille Barzani...
C'était vraiment les...
Est toujours au pouvoir à Erbil, dans le Kurdistan irakien.
Et c'est des gens, depuis fort longtemps, ça fait partie de Mossad israélien. Voilà.
C'est allé jusqu'au point où Israël, pour faire croire qu'il avait tous les droits sur ce pays, a démontré avec des tests ADN que les Kurdes avaient les mêmes gènes que les Juifs.
C'est vrai.
On était en plein délire.
Non, mais c'est ce qui était... Hier, ils l'ont dit au début.
Donc, tout était bon pour la propagande. Et effectivement, vous savez, si vous voyez un Kurde, en fait, il a du même ADN que les Juifs. Alors, je ne sais pas d'ailleurs comment les Juifs auraient tous le même ADN.
Ils ont essayé de dire non, ce n'est pas vrai, c'est des mensonges.
Ah, les études, elles ont été publiées
elles
quand même.
Elles ont été publiées par l'Europe, surtout.
Tout à fait. Ouais. Voilà, donc pour l'Iran et pour cette zone-là du Moyen-Orient. Puis je vais vous faire un petit tour en Corée, en Corée du Sud. Alors pourquoi faire un petit tour en Corée du Sud? Parce que tout simplement, il y a eu des élections présidentielles dans la semaine écoulée et que ça s'est terminé par un affrontement entre des démocrates et des conservateurs. Je vous fais grâce des noms des partis parce que ça ne vous marquera pas, mais disons qu'il y avait un centre-gauche et un centre-droit qui s'affrontaient. Le centre-gauche était au pouvoir, c'est le président Moon qui finissait son mandat, et c'est le centre-droit mené par M. Yoon Suk-yeol, je prononce très très mal le coréen certainement, qui a gagné. Alors il a gagné dans des conditions extrêmement limites, puisque en fait il y a 0,8% d'écart entre les deux candidats, bon, ce qui est très très peu. Et ce qui va lui rendre en plus la tâche difficile, parce que là encore, il n'a pas de majorité parlementaire, au moins pour l'instant, en attendant les prochaines élections parlementaires qui n'auront pas lieu tout de suite, mais il est là. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, d'une part, avait une carrière un peu atypique dans le personnel, le haut personnel politique de la Corée du Sud, et qu'il n'avait jamais été élu à aucun poste. Il était membre de ce parti, il avait la carte et tout. Il a été choisi in extremis par le parti. En fait, il était procureur général auprès de la Cour de cassation coréenne. Donc c'est un magistrat qui se lance en politique et qui, pour son premier coup, réussit sa première intervention. Il devient président de la République. Ça, c'est la façade, disons, électorale. Bon. Donc la droite reprend le pouvoir. Elle l'a rarement lâché, d'ailleurs, en Corée du Sud. Et les démocrates, comme le président sortant Moon, sont arrivés au sommet quelques fois depuis donc, la guerre de 1953, mais pas souvent. Majoritairement, c'était la droite, donc du Parti du Peuple, qui était au pouvoir. Là où la chose devient intéressante, c'est dans les réactions. Donc l'élection a eu lieu mardi dernier. Dès le mercredi, le général américain commandant les forces américaines en Corée du Sud a dit qu'il était enchanté de ce résultat. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Alors ce monsieur qui s'appelle monsieur Lacamara, Paul Lacamara, il dit, voilà, c'est très très bien ce qui vient de se passer en Corée du Sud. Il s'appuie d'ailleurs sur un télégramme ou sur un téléphone de félicitations de Biden au nouvel élu en disant, enfin, on va respirer. Ça veut dire quoi ? Alors, si vous avez suivi l'évolution du mandat de M. Moon, le mandat qui s'achève, M. Moon a une période initiale de son mandat de 4 ans où il a essayé des petits pas de rapprochement vers la Corée du Nord pour faire tomber, baisser un peu la température des visites, des échanges, etc. Et puis, manifestement, il a été un peu repris en main, surveillé, grondé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais sur la fin de son mandat, il avait arrêté ce genre de tentative. Et d'ailleurs, la Corée du Nord, Pyongyang, avait très très bien compris que cet espoir-là devait être remisé. Bon. Mais là, alors vraiment, le bonheur immédiat du général La Camara et de Biden ne trompe pas. C'était, ils ont enfin le candidat qu'ils voulaient. Et alors ça s'est tout de suite confirmé par des prises de position sur l'arme nucléaire. Nous allons pouvoir remettre des armes nucléaires tactiques, on vous dit, parce que c'est plus poli sur le sol de la Corée du Sud, pour bien montrer au vilain petit monsieur qui gouverne à Pyongyang qu'on ne se laissera pas faire. Bon. C'est reparti pour un nouveau cycle, hein, en disant le diable, c'est les rouges du Nord, et nous, on est là. Et nous, on est Américains. Et c'est même allé un peu plus loin, et là, je vais dans le débat stratégique et militaire qui a lieu derrière ça, sur les missiles antimissiles. Alors, qu'est-ce que c'est que les missiles antimissiles ? Alors, c'est des missiles qui sont destinés à tirer en l'air un missile qui a été tiré par quelqu'un d'autre. Bon, ça évite donc que le missile qui arrive de quelqu'un d'autre tombe chez vous et fasse des dégâts chez vous. Ça existe. Hein ? Ça, c'est tout à fait au point. Ça existe dans l'arsenal états-unien. Et donc, c'est ça qui, en première instance, outre les armes nucléaires tactiques qu'ils vont installer, ils vont réinstaller sur le sol de la Corée du Sud. Ça veut dire, l'hypothèse...
Ça a été installé en Israël.
Oui, tout à fait. Alors ça veut dire très simplement, nous partons de l'hypothèse que la Corée du Nord va envoyer des missiles nucléaires sur la Corée du Sud, ce qu'elle n'a jamais déclaré, hein, puisqu'il a été clair que le régime de Corée du Nord avait dit « Moi, je me fais du nucléaire parce que si on me fait des ennuis, je tirerai sur le responsable qui n'est pas le peuple coréen, ni au Nord ni au Sud, qui est aux États-Unis ». Ça, c'est, le message a été tout à fait clair dans la bouche des dirigeants nord-coréens. Ça, ils ont, évidemment, on n'a pas voulu l'entendre. Donc, l'hypothèse, je vais jusqu'au bout de l'hypothèse qui est dans les cerveaux enfiévrés de ces généraux-là, c'est-à-dire la Corée du Nord tire une arme atomique sur la Corée du Sud. Et vous savez qu'en plus, c'est tout près, hein, il y a juste une ligne de démarcation, donc c'est l'affaire de quelques minutes. Donc il faut mettre en place en Corée du Sud des missiles antimissiles, de telle façon que dès qu'on perçoit l'envoi du missile nord-coréen, il soit détruit en vol le plus haut et le plus loin possible. Bon, c'est ça le jeu. Et puis, ça c'est le jeu classique. Et puis il s'ajoute des commentaires des militaires états-uniens en disant « Mais après tout, si on faisait nous une première frappe, c'est-à-dire, si au lieu de dire l'hypothèse, c'est le vilain du Nord nous canarde et donc on se défend, si nous, on fait une première frappe, c'est-à-dire si nous, on va taper sur son centre de commandement, sur ses silos, eh bien, il ne pourra plus jamais nous menacer. Hein ? C'est ça, voilà. Ouais. C'est ça l'idée de la première frappe. Et ça revient sur le tapis, l'idée de la première frappe. Ouais, on va en reparler pour l'Ukraine aussi. Donc voilà ce qui se passe en Corée. Alors on va voir, ce président est élu de justesse. Il est élu donc avec un satisfecit très marqué des États-Unis et un satisfecit surtout des généraux. Et puis un satisfecit, j'allais dire, de cette espèce d'idéologie de nucléaire qui fait que la politique internationale ne peut avancer, les relations entre les États et les peuples ne peuvent avancer qu'à coup de menaces de bombardement nucléaire. C'est ça qui est à l'ordre du jour. C'est ça qu'il faut voir. On va reparler pour l'Ukraine. C'est rien d'autre. Il faut arrêter de dire vous êtes d'accord ou vous mourrez. C'est pas possible de vivre sur une planète ensemble comme ça. Hein. Bon, c'est ça qui se joue. Voilà. Donc on en est là, puis on va passer à d'autres affaires qui nous occupent beaucoup plus. Hein. C'est ce que je voulais dire un peu en introduction. On va passer maintenant une petite musique qui va servir d'introduction à la séquence russo-ukrainienne, qui est alors vous allez être surprise par le choix que j'ai pu faire. Il s'agit d'un prodige russe qui est un violoniste de 15 ans. Et j'ai choisi qu'il va nous jouer un petit air de Jean-Sébastien Bach, donc un prodige russe qui est un violoniste, qui joue de la musique d'un Allemand, Jean-Sébastien Bach, un allegretto, ça c'est de l'italien, donc on est tout à fait dans la culture musicale universelle que tout le monde peut utiliser. Je précise d'ailleurs, j'ai parlé de la Corée, il y a des virtuoses de musique classique en Corée, en Chine, au Japon, il ne faut pas croire. Alors c'est vrai que la musique que nous appelons classique a son berceau en Europe, mais c'est vrai aussi qu'elle a diffusé dans le monde entier. Hein, et que je dis, il y a des virtuoses de cette musique-là, avec ces instruments-là, dans le monde entier. Bon. Mais le choix que j'ai fait donc, de ce jeune violoniste russe, c'est de dire qu'il me paraît incompréhensible, et surtout pas incompréhensible, stupide de dire qu'on prive des artistes russes de faire leur carrière internationale quand ils sont à un niveau très très élevé, sous prétexte qu'ils sont russes. On peut tout nier. Moi, j'ai très, très peur que ça, dans ce style de censure, puisqu'il s'agit de ça, vous êtes russe, donc vous avez tort, et surtout, vous n'avez pas le droit d'exercer votre art. Alors là, il s'agit en plus d'un jeune garçon de 15 ans. Il n'est pas complice même du régime. Il n'a pas voté pour Poutine. Enfin, ça me paraît stupide. Ça me paraît d'autant plus stupide que j'ai peur de la suite. La peur de la suite parce que j'ai entendu dans des émissions évoquer la littérature russe. Et on parlait en particulier, vous savez que le grand chef-d'œuvre de Tolstoï, c'est « Guerre et paix ». C'est un énorme livre, « Guerre et paix », qui en fait est basé sur une analyse de la campagne napoléonienne en Russie et de la résistance de la Russie à la campagne napoléonienne, qui s'est terminée, on le sait, par la victoire, enfin, l'échec total de Napoléon dans sa campagne de Russie. Bon. Voilà. Bon, c'est ça. Et puis alors, il y a Tolstoï, il y a Dostoïevski, il y a Gogol. Enfin, il y a un apport de la littérature russe à la littérature mondiale énorme. Si on se met à dire qu'il ne faut plus lire ou plus commenter Tolstoï, Dostoïevski, on est en plein maccartisme. C'est-à-dire, peu après, l'étape suivante, et qui me fait horreur à l'avance, c'est on brûle les livres. Hein. Alors, je prends des paris. Il ne faut pas que cela arrive. Arrêtons de délirer. La littérature russe fait partie de la littérature mondiale, comme la littérature des États-Unis, comme Toni Morrison, comme tout cela. Mais arrêtons cette folie furieuse. Bon, donc on écoute un petit air d'une partita de Bach par David Lokachovitch. 15 ans. Voilà, il s'appelle David Lozakovitch, donc prodige violoniste russe de 15 ans. Ah, voilà, retenez son nom et puis j'espère qu'il pourra continuer une carrière normale à l'écart de cette censure stupide. Alors arrivons-en à la situation là où on vous en fait, on prépare à longueur de journée et d'antenne. Quelques indications comme ça qui sont intéressantes rétrospectivement. J'ai là le nom d'un certain nombre de visiteurs qui ont rencontré Vladimir Poutine dans les semaines précédant l'opération. Je les nomme dans l'ordre. D'abord le président argentin, début février. Et des accords ont été signés pour intensifier les échanges économiques, culturels entre les deux pays. Quelques jours avant le début des opérations, le président Bolsonaro, le président donc brésilien. Alors vous allez dire, surprenant, alors vous allez dire, Bolsonaro, on sait qui il est. Je rappelle quand même que le Brésil fait partie des BRICS, qui est un accord de coopération entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et que donc, on avait craint, moi-même j'avais craint, que l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir interrompe ce type de relation. Il se trouve que ça s'est maintenu. Il y a des intérêts économiques importants qui sont en jeu. Je pense en particulier au lien entre la Chine et le Brésil pour les questions de minerais de fer ou de choses comme ça. Bon, et donc ça s'est maintenu, même si peut-être c'est arrivé à un niveau un peu plus faible qu'à certaines périodes. Mais en fait, ça n'a pas été coupé à telle ancienne que Bolsonaro est revenu à Moscou début février pour dire à Poutine, ben, on continue à travailler avec vous. Alors le Brésil a pris une position prudente par rapport au conflit, mais il n'empêche qu'il est allé clairement dans le sens de on continue à travailler, il n'y a pas de boycott de nos relations. Le troisième personnage sur lequel je m'arrête, lui, est arrivé le 22 février dans le bureau du Kremlin. Alors, le 22 février, alors je cale, hein, parce que le 21, c'est le jour où la Russie donc, décide de reconnaître les deux républiques sécessionnistes. C'est le jour où la Douma vote donc, pour cette reconnaissance. Et c'est le jour où la Douma précise que ces deux nouveaux États auront, et à la demande de ces nouveaux États, il y aura des relations de soutien de ces deux États par la Russie. C'est donc ce qui change complètement les conditions géopolitiques. Voilà, les conditions géopolitiques des jours suivants. Et le lendemain, on est donc le 22, on est le mardi, M. Poutine reçoit M. Aliyev. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est M. Aliyev, mais M. Aliyev, c'est le président de l'Azerbaïdjan. Et il est président depuis assez longtemps. Il est le fils de son père qui était président avant. Et il est assez représentatif de ces élites issues des républiques socialistes soviétiques, puisque l'Azerbaïdjan faisait partie de l'URSS, qui, après la chute de l'URSS, sauf quelques-uns, je pense surtout au Bélarus, la plupart des autres ont subi des charmes, des volontés des États-Unis de les changer de camp. Avec des aides diverses, de la corruption sous diverses formes, parce qu'on a trouvé là du personnage qui était assez vendable, assez souple, etc. Bon. Et donc la famille Aliyev, donc fils, père et fils, le père a fini ses jours d'ailleurs dans un hôpital états-unien, parce qu'il avait une grave maladie, donc ils avaient de bonnes relations. Tout ça, c'est mis sur une position intermédiaire, c'est-à-dire on ne se fâchait pas avec la Fédération russe, on savait qu'elle était en mauvaise santé, mais tous les cadeaux, tous les sourires, le charme que vous pouvez vous faire les diplomates des États-Unis et les entreprises états-uniennes étaient bienvenus, étaient reçus. Et l'Azerbaïdjan était au nombre de ceux-là. Et là, le fait que M. Aliyev vienne à Moscou et qu'il reprenne une attitude très claire par rapport au conflit en cours, ça veut dire que la période du charme états-unien est en train de s'achever. Il est venu d'autant plus volontiers, je le rappelle, qu'il y a de ça pas si longtemps, il a tenté, l'Azerbaïdjan, avec l'aide militaire de M. Erdogan, le Turc, de détruire l'Arménie, ou au moins de faire beaucoup de mal à l'Arménie par rapport au conflit du Haut-Karabakh. Alors, je rappelle le conflit du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, c'est une province peuplée d'Arméniens, mais qui se trouve en plein milieu de l'Azerbaïdjan. Et ça, c'est historique, c'est comme ça, parce qu'il s'agit, j'en reparlerai tout à l'heure à propos de l'Ukraine, il y a des endroits sur la planète qui sont à la limite de zones d'influence et qui sont toujours en train de balancer entre l'un et l'autre, et du coup qui ont des... Alors, on comprend assez mal ça en France, parce qu'on a plutôt des amitiés stables et des rapports stables, encore qu'avec nos voisins allemands, on n'est pas toujours des rapports stables, enfin, les lignes ne se déplacent pas très facilement. Dans ces zones-là, qui sont aux confins de zones, là, on est aux confins des zones de perses, les royaumes perses au niveau des sites, enfin, il y a toute une histoire, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est toujours difficile de stabiliser une position diplomatique, surtout quand on est un petit pays, même s'il a beaucoup, beaucoup de pétrole, comme c'est le cas de l'Azerbaïdjan. Bon. Et donc, ce qui s'était passé, je le rappelle, c'est que au moment de la disparition, enfin, la disparition de l'URSS, l'Arménie a tenté une opération militaire contre l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire elle est allée s'installer au Karabakh, et surtout elle a colonisé la partie du terrain qui était sur le territoire officiel de l'Arménie et le Haut-Karabakh. Il y avait une espèce de no man's land entre les deux. Enfin, ce n'était pas un no man's land, puisqu'il y avait des Azéris au milieu. Donc l'Arménie a colonisé militairement et elle a gagné, curieusement la bataille, une partie du territoire de l'Azerbaïdjan. Ça, c'était la réalité. Et l'Arménie n'avait pas grand-chose à dire pour défendre sa position. Parce que défendre les habitants du Haut-Karabakh, c'était une chose. Conquérir et occuper une partie du territoire azéri, ça en était une autre. Il se trouve qu'il y a de ça 2 ans maintenant, l'affaire a basculé, puisque l'Azerbaïdjan, profitant donc d'une espèce d'excitation de sa population, a décidé de régler la question en reprenant possession des terres azéries qui faisaient la liaison entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. Et puis, au passage, si la Russie ne les avait pas arrêtés, ils auraient éliminé tous les Arméniens du Haut-Karabakh qui étaient là chez eux.
Et même, je crois, aller jusqu'en Arménie.
Voilà. Et même peut-être poursuivre. Bon. Ouais. C'était ça qui est... Il y a une espèce de vengeance de la guerre de 1994, mais qui allait au-delà, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan qui a de l'argent parce qu'il a du pétrole, profiter de la faiblesse de l'Arménie, qui a perdu beaucoup, beaucoup d'habitants, qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, pour essayer de faire tourner l'histoire dans l'autre sens.
Et je pense aussi à cause du changement politique de l'Arménie.
En plus, qui était ouais. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que le président russe a convoqué dans son bureau le premier ministre donc arménien et le président Aliyev dont je viens de parler et leur a dit maintenant, il faut arrêter, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. Et moi, j'envoie une force d'interposition qui va se charger d'arrêter les combats et d'organiser avec vous une négociation pour voir comment on fait pour régler vos problèmes de territoire. Ce qui fut fait. Donc ça veut dire, en fait, on a eu là un rôle de la Russie sur lequel j'insiste, c'est-à-dire un rôle de gardien de l'ordre, de rétablissement de ça, c'est une espèce de casque bleu. La Russie a fait ce que l'ONU était bien incapable de faire, c'est-à-dire de faire régner la paix dans une région du monde qu'elle connaît, puisque aussi bien l'Arménie que l'Azerbaïdjan étaient, il n'y a pas si longtemps, des républiques socialistes soviétiques.
Et, il a arrêté aussi... La Turquie,
oui, Erdogan. Qui fournissait les armes et les avions et les drones, etc. Ah, oui, donc, alors, il n'a pas été convoqué, Erdogan.
Aussi.
Voilà. Donc, mais tout le monde a obéi. Bon, donc, c'est une espèce de force de paix en disant, mais voilà, j'amène le calme, calmez-vous. Et M. Aliyev, comme les autres, avait obéi. Et il continue d'obéir. Même si, dans ses troupes et dans ses armées, il y avait des gens qui voulaient continuer à en découdre et qui ont encore fait quelques exactions ici et là, anti-arméniennes, des exactions racistes. Bon. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie donc du respect que M. Aliyev porte au directeur, aux dirigeants de la Russie. Parce qu'il connaît, je pense qu'ils se parlent en russe tous les deux sans problème. Et donc, ils ont des relations anciennes et qui sont confortées par les derniers événements. Bon, donc M. Aliyev, le 22, donc le mardi après le vote de la Douma, disant qu'il fallait arrêter la guerre qui était programmée contre le Donbass, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il fallait donc arrêter ça. Et donc si M. Aliyev s'est rendu là, c'est qu'il est venu aux nouvelles et qu'il lui a été expliqué ce qui allait se passer, pour éviter qu'il fasse des interprétations erronées de la situation. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais celle-là est très, très intéressante parce qu'elle montre une capacité donc, de résolution des conflits qui est acceptée par beaucoup de voisins du pays. Bon, que ici, on veut négliger, on veut faire comme si ça n'existait pas, ben ça existe réellement. Et effectivement, donc, les soldats russes sont encore sur le territoire autour du Haut-Karabakh et assurent le maintien du cessez-le-feu et assurent la protection des négociations qui sont en cours entre les deux pays. Ça, c'est un premier aspect.
Alors, même la Syrie a subi les conséquences de ce truc-là. Parce que Erdogan a envahi une partie
de la Syrie. De la Syrie. Voilà. Alors, donc, ça, c'est des choses qui se jouent maintenant.
Qui se jouent, oui.
Alors maintenant, on va en parler des questions du nucléaire. Du nucléaire, parce que ce qu'il faut développer, c'est ce qui s'est passé en Ukraine après la disparition de l'Union soviétique. Alors, ce qui s'est passé en Ukraine, c'est très très simple. Après la disparition de l'Union soviétique, il y a eu des négociations au plus haut niveau entre l'équipe russe nouvelle, donc Boris Eltsine, très simple, et l'équipe états-unienne qui était en face. Donc l'équipe d'abord du père Bush et puis ensuite l'équipe Clinton, pour régler la question de l'armement nucléaire. Pourquoi la régler ? Parce que c'était une question centrale, puisqu'il s'agissait de finir la guerre froide, qui était symbolisée par le face-à-face mortifère entre les deux plus grosses puissances nucléaires mondiales, les autres pesant relativement moins dans ce face-à-face, à telle enseigne que les traités sur l'arrêt ou le ralentissement de la guerre nucléaire ont toujours été signés entre les deux, pas entre tous les autres. Bon, c'était bien là que ça se jouait. Tout le monde le savait. Et donc les États-Unis et la Russie nouvelle négocient un accord au terme duquel la Russie devient le dépositaire de la totalité des armes nucléaires soviétiques, y compris de celles qui n'étaient pas sur le territoire devenu la Fédération de Russie. Ce qui voulait dire concrètement que les armes nucléaires qui étaient au Kazakhstan, celles qui étaient au Bélarus et celles qui étaient en Ukraine, puisque c'était les trois seules républiques outre la République russe où il y en avait, revenaient en Russie, qui assurait la gestion du stock, etc. Ça s'est bien passé très facilement au Kazakhstan et en Bélarus. L'Ukraine a fait un peu plus de difficultés pour les rendre, en disant qu'elle se sentait quand même assez forte. Elle se sentait tellement forte qu'il faut savoir qu'à l'époque, en termes militaires, hein, donc au courant de l'année 91-92 ou 93, où ont eu lieu ces négociations pour le transfert des armes nucléaires soviétiques en Russie, l'Ukraine était, avec ce qu'il avait sur son territoire, la troisième puissance nucléaire mondiale, bien avant la France, bien avant la Grande-Bretagne, bien avant la Chine. Bon. Et donc, on a senti, ça s'est vu dans différents témoignages, on a senti qu'une partie de la direction ukrainienne lâchait ça avec difficulté. Elle aurait bien aimé garder ce rôle d'être une puissance nucléaire, puis une puissance que c'est l'URSS qui la lui avait donnée, mais elle aurait bien aimé garder une partie de cette puissance-là. Alors il y a eu des pressions fortes des États-Unis qui ont fini par dire « Ok, vous rendez tout à la Russie, mais maintenant il faut que vous soyez clair sur la suite des événements, vous signez le traité de non-prolifération nucléaire. » Donc c'est-à-dire vous vous engagez à ne pas faire d'armes atomiques. Ça avait d'autant plus de sens en Ukraine qu'il y avait sur le territoire de l'Ukraine une bonne partie des usines qui fabriquaient les armes atomiques soviétiques et les missiles soviétiques. Pas tout, mais il y en avait suffisamment. Ça, c'était la donnée. Donc ça se signe, on est en 94, et il y a un papier qu'on appelle Mémorandum de Budapest qui dit, ben voilà, l'Ukraine rend tout son matériel atomique militaire, et puis elle adhère au traité de non-prolifération, et donc c'est fini, l'Ukraine ne sera pas une puissance nucléaire, n'en parlons plus. Mais elle garde les usines qui étaient là. Et ce qui se passe, donc c'était le 19 février, donc, vous voyez, 19 février, regardez les événements. 21, donc, la Russie décide de ne pas se laisser faire. Le 24, les opérations militaires commencent. Ce qui se passe le 19 février à Munich, c'est que le président ukrainien, vous savez maintenant qui c'est, dit que puisque, vu les événements, il va décider qu'il est menacé, et ça, il le sait, il s'en doute, il va décider de ne pas suivre les engagements qui ont été pris, parce qu'il dit, voilà, dans ces accords de Budapest, on appelle ça le mémorandum de Budapest, il avait été dit, l'Ukraine signe en renonçant à l'arme nucléaire, mais comme elle a peur quand même d'être envahie par le voisin, puisque là, elle n'est plus armée, et à l'époque, ils avaient peut-être plus peur d'être envahis par les États-Unis, d'ailleurs, que par la Russie, elle veut des garanties des signataires. Les signataires, c'est les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et il y a ce mot « garantie » dont le contenu n'a jamais été fixé. Et depuis qu'il est au pouvoir, M. Zelensky disait « Mais expliquez-moi ce que c'est les garanties, parce que moi, je suis menacé par la Russie. Vous aviez écrit que vous me garantissiez la sécurité. Qu'est-ce que vous faites ?» Et il n'y avait pas de réponse. Et donc sa réponse le 19 à Munich, c'est de dire très clairement ben, « Puisque vous ne dites pas que vous me protégerez, je vais me protéger tout seul. » puisque j'ai en capacité, je peux très vite me faire des armes atomiques moi-même, puisque j'ai gardé sur mon sol une partie de l'industrie nucléaire, militaire. Ce que voyant, alors le jour même, Vladimir Poutine dit, bon, j'ai compris, hein, ils veulent l'arme atomique, ils me menacent avec l'arme atomique, bon, maintenant, il faut arrêter ça tout de suite. Bon. Hein, d'où la suite des événements. Alors ça, on ne nous l'a pas expliqué. Ça, on ne nous l'a pas expliqué, mais c'était tout à fait important. Alors, je vois un doigt qui se lève. Hein. Alors, le doigt qui se lève. Donc, cette guerre nucléaire que Zelensky était prêt à faire, bon, elle a été arrêtée pour la bonne raison que parmi les premières opérations militaires de l'armée russe sur le territoire de l'Ukraine, le 25, le lendemain du début des opérations, la Russie prend possession du centre nucléaire de Tchernobyl, de sinistre mémoire, et le surlendemain, elle prend possession de l'autre gros centre nucléaire, la zone de production qui est à Zaporoye, et elle prend possession aussi du centre qui est à Kharkov. C'est-à-dire que la première tâche de l'armée russe, ça a été d'empêcher qu'à un moment ou à un autre, l'Ukraine ait l'arme atomique. Eh bien, on les en remercie beaucoup et on vous en reparlera la semaine prochaine. Merci Yamine.